Vous êtes sur RTL.
Et il est présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
On continue donc de parler de Valéry Giscard d'Estaing, décédé hier soir à l'âge de 94 ans.
L'ancien président s'est éteint entouré de sa famille dans sa propriété d'Auton dans le Loir-et-Cher. Il a succombé au Covid-19, c'est ce qu'indique son entourage. Il avait été hospitalisé plusieurs fois ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. Question Panvert, vous êtes sur place pour RTL à Auton.
Oui, Valéry Giscard d'Estaing est décédé du Covid dans sa résidence de Auton, dans le Loir-et-Cher, entouré des siens, notamment son épouse Anémone et ses enfants, dont sa fille Valériane, qui habite tout près d'ici. Il entretenait avec le Loir-et-Cher une relation particulière. C'est d'ailleurs à Auton qu'il avait scellé son mariage avec Anémone de Brant en 52, dans la chapelle du château de Fresnes. On le voyait de temps en temps aux fêtes communales. Il avait parrainé en 99 la remise de la Légion d'honneur de Jacqueline Gourault par François Bayrou. On le croisait aussi au bureau de vote d'Auton. La dernière fois, c'était à l'occasion des élections législatives de 2017. Et c'est encore ici qu'il avait choisi de se replier lors du premier confinement en mars dernier, dans sa résidence du château de l'Étoile, la même où il a fait le vœu d'être enterré dans un cimetière privé où repose sa fille décédée en janvier 2018.
Christian Panvert à Auton dans le Loir-et-Cher pour RTL. Ce Loir-et-Cher où VGE possédait 200 hectares de terre, essentiellement des céréales, des terres cultivées par Claude Guillon, agriculteur. Il est très triste ce matin.
Beaucoup de tristesse parce qu'on avait des liens très proches depuis 20 ans qu'on se côtoyait. Évidemment, c'est un coup de massue. Hein. C'était un grand-père pour nous. Hein. On gérait ses exploitations agricoles, donc on avait la confiance était mutuelle, quoi. Soit Monsieur le Président ou Madame Giscard d'Estaing, oui, on avait souvent des contacts, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Hein. Ils s'intéressaient en permanence, est-ce que les céréales se portent bien, la moisson, est-ce qu'elle se passe bien, est-ce que on va avoir des cours corrects, quand c'est que la récolte était moyenne, ben il disait ben c'est comme ça. Quand elle était très bonne, des bons cours, ben il me disait c'était son mot, bravo. Quand il disait bravo Claude, c'était bravo pour toute l'entreprise. C'était un terrien, mais d'origine il était de l'Auvergne. Alors donc c'est normal, c'est des gens qui sont nés avec la terre.
Hein. Valéry Giscard d'Estaing, qui avait été le plus jeune président de la République élu en 1974, mais il n'aura tenu qu'un mandat, qu'un septennat.
Un mandat où effectivement marqué par de grandes réformes qui ont modernisé la France. Il y a bien sûr la légalisation de l'avortement, une loi portée par sa ministre Simone Veil, mais il faut citer aussi la majorité à 18 ans, le divorce par consentement mutuel, et la fin de l'ORTF qui chapeautait alors tout l'audiovisuel. C'est d'ailleurs VGE qui a révolutionné la communication politique avec les premiers débats politiques télévisés. On lui doit aussi les bases de la monnaie unique européenne. Mais Giscard, ce sont aussi des affaires, notamment les diamants de Bokassa qui lui ont sûrement coûté sa réélection en 81. Quel regard posait-il sur ce septennat? Écoutez sa réponse dans RTL Soir en 2014.
Là, pour le coup, c'est une nostalgie, c'est un regret. J'ai le sentiment que la France allait mieux. Elle allait mieux, elle avait une économie meilleure. Pensez que nous étions le pays d'Europe pendant les 7 ans de mon septennat, dont la croissance était la plus forte. Je crois que c'est que tout à coup, les Français ont dit c'est trop long, il faut changer. Parce qu'ils ont vu d'un seul coup que De Gaulle était arrivé en 58, qu'on allait être en 81, que ça faisait 23 ans. Et ils se sont dit 23 ans, c'est trop long, on va essayer autre chose.
Valéry Giscard d'Estaing, qui n'avait jamais complètement digéré sa défaite face à François Mitterrand. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Bon, de fait, hein, malgré toutes ses réformes et sa volonté d'être proche du peuple, il n'a jamais réussi à se faire aimer, à la différence de Jacques Chirac.
Ben oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand Valéry Giscard d'Estaing quitte l'Élysée en franchissant à pied les grilles du Faubourg Saint-Honoré, il est sifflé par les badauds. C'est le climat de l'époque. Hein. C'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir. Mais c'est aussi le symbole du désamour de l'opinion à l'égard d'un homme qui incarne à son arrivée la modernité, la jeunesse, mais qui n'arrive pas à toucher le cœur des Français malgré ses tentatives pour faire peuple. Il n'arrive pas à se débarrasser de son côté aristo, qu'il, dans la deuxième partie du quinquennat, très difficile sur le plan économique, social, se retourne contre lui. Et lorsqu'il est attaqué par la presse sur les affaires, il considère qu'il n'a pas à répondre, il s'enferme dans une espèce de déni hautain. Et puis ensuite, vous le disiez, il ne digérera jamais vraiment sa défaite et il en voudra aux Français qui n'ont pas su le comprendre. Et pourtant, c'est un homme pétillant, brillant, à l'humour acéré. Il disait qu'il était un sentimental, un grand timide, mais qu'il ne pouvait pas forcer sa nature.
Merci Marie-Bénédicte Thaler. Depuis hier soir, les hommages se multiplient. Dans un communiqué cette nuit, Emmanuel Macron salue un chef d'État dont le septennat a transformé la France. Les orientations qu'il avait données guident encore nos pas, écrit le président. Hommage aussi de Nicolas Sarkozy, le premier d'ailleurs. Il rend hommage à la grande intelligence de Valéry Giscard d'Estaing, un homme avec qui j'ai toujours eu plaisir à débattre, dit-il. François Hollande, de son côté, salue un président résolument européen, mais qui n'a pas toujours été compris.
Et François Hollande qui sera notre invité tout à l'heure à 7h15 sur RTL. On marque une toute petite pause, les amis, sur RTL. Et ensuite, le reste de l'actualité, avec notamment cet accord sur les congés payés. C'était l'une des grandes inquiétudes des restaurateurs fermés en ce moment.
RTL Matin, Julien Cellier.
Allez, 5h36, le reste de l'actualité maintenant dans cette édition spéciale, avec notamment cet accord au ministère du Travail sur les congés payés dans les secteurs les plus touchés par la crise.
Des congés payés qui continuent de s'accumuler même lorsque les entreprises sont fermées ou touchées par le chômage partiel. C'est très difficile à payer pour les petits patrons. L'État va prendre en charge jusqu'à 10 jours de congés s'ils sont posés entre le 1er et le 20 janvier. Alors, qui est concerné, Christophe Pondio ?
Alors, premier bénéficiaire possible, les entreprises dont l'activité a été interrompue au moins 140 jours depuis le début de l'année, 4 mois et demi d'arrêt total ou partiel, peu importe. Cela concerne donc les cafés, les bars et les restaurants, mais aussi les salles de sport, les discothèques ou les traiteurs et les organisateurs de réception. Deuxième bénéficiaire, les entreprises qui ont perdu 90% de leur chiffre d'affaires pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire. Là, cela concerne essentiellement les hôtels qui peuvent rester ouverts mais qui n'ont plus de clients. Voilà pour les deux cas de figure. Alors maintenant, ces 10 jours ouvrés de congés, c'est-à-dire 2 semaines, prises en charge par l'État, eh bien, ils vont devoir être posés entre le 1er et le 20 janvier pendant la période d'activité partielle. Pour les salariés, leur chômage partiel passera de 84% de leur salaire net à 100% pendant cette période, car quand on est en congé, le salaire ne peut pas diminuer. Et puis pour les employeurs, ils n'auront plus qu'à compléter et payer les 16% du salaire manquant. Le reste est à la charge de l'État, à savoir plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires.
Christophe Pondio du service économie d'RTL. Un accord aussi hier soir sur une nouvelle jauge pour les cérémonies religieuses. Il prévoit de laisser 2 sièges vacants entre chaque personne ou chaque groupe familial et de n'occuper qu'un rang sur 2. La contre-attaque de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est fragilisé par les affaires de violences policières. Voilà qu'il annonce une action massive et inédite contre le séparatisme. Action qui doit viser 76 mosquées. Elles seront contrôlées et celles qui devront être fermées le seront, dit Gérald Darmanin.
Et le ministre de l'Intérieur qui sera l'invité de RTL à 7h40 ce matin sur RTL. Jean Castex va dévoiler ce soir la stratégie de la France pour la vaccination contre le Covid.
On sait déjà que les résidents et les personnels des EHPAD seront prioritaires probablement début janvier, avant une phase de vaccination plus massive au printemps. Alors cette campagne de vaccination s'annonce comme un gigantesque défi logistique. Les 150 000 camions de la chaîne du froid se préparent à acheminer des millions de doses, car le vaccin doit rester réfrigéré, parfois à moins 70 degrés. Sémafroid est un laboratoire d'expertise et de certification de camions frigorifiques. Il travaille en collaboration avec l'OMS et le ministère de la Santé. Il n'en existe que 6 en Europe, dont un à Fresnes, en région parisienne. Mourad Djabari, vous avez pu y pénétrer pour RTL.
Un laboratoire, oui, situé en banlieue parisienne. Les tests sont effectués dans un grand hangar. Face à nous, un tunnel d'essai.
Dans lequel sont en test une semi-remorque frigorifique et une camionnette frigorifique, couramment utilisée pour le transport, potentiellement des vaccins.
Gérald Cavalier, président de Sémafroid.
Et là, on teste les capacités de refroidissement du véhicule.
Potentiellement, il faudra arriver à moins 70.
Les vaccins vont être transportés dans des emballages qui vont être réfrigérés avec de la neige carbonique. Et ces emballages vont eux-mêmes être placés dans un camion frigorifique pour limiter les déperditions à travers l'emballage.
Transporter un vaccin à moins 70 degrés, on sait faire, mais c'est pas habituel.
Depuis quelques mois, un vaccin de l'Ebola qui se transporte à ces températures-là, mais les volumes sont beaucoup plus faibles.
Et l'autre défi de cette campagne, c'est la distribution des vaccins. En France, il y a 150 000 camions frigorifiques, un pour 450 habitants. C'est 26 fois plus qu'en Chine, par exemple. Joël Gandon, patron de Gandon Entreprises, leader du transport de produits pharmaceutiques, interviendra à 2 reprises.
Dans un premier jet, on doit les prendre de l'aéroport vers des centres logistiques spécialisés pharma qui entreposeront ces produits dans différentes régions de France. Ensuite, on devra les reprendre pour assurer le dernier kilomètre pour aller vers...
Les EHPAD et les centres de vaccination, tout cela d'après le transporteur dès la première semaine de janvier.
Reportage RTL signé Morad Djabari. Notez que 3 essais de vaccins doivent démarrer en France à la mi-décembre. 2200 volontaires ont été recrutés. Il s'agit notamment d'essais de phase 3 sur les vaccins AstraZeneca et Janssen. Le troisième concerne l'un des vaccins les plus avancés, celui du laboratoire américain Moderna. Et puis on annonce aussi des campagnes de dépistage massifs. Selon les informations d'RTL, ce sera à Saint-Étienne, Le Havre et Lille, peut-être même avant Noël. Aux assises de Charente-Maritime, l'ex-chirurgien pédophile Joël Le Squarnec a avoué hier pour la première fois des faits de viol sur ses deux nièces. Elles sont âgées aujourd'hui d'une trentaine d'années. En revanche, il a refusé d'avouer le viol de sa petite voisine de Jonzac, cet enfant qu'il a dénoncé la première en 2017.
RTL, 5h41, le foot et la Ligue des Champions, mission accomplie pour le PSG.
Les Parisiens ont réussi l'exploit de l'emporter contre Manchester United à Old Trafford. Victoire 3-1 grâce à un doublé de Neymar et un but du capitaine Marquinhos. La qualification pour les huitièmes de finale est désormais à portée de main. Un nul contre les Turcs du Başakşehir serait suffisant et une victoire placerait même les Parisiens en tête de leur groupe. C'est fini en revanche pour Rennes, battu 1-0 par les Russes de Krasnodar. Et puis Romain Grosjean était l'invité exceptionnel d'RTL Soir hier. 3 jours après son spectaculaire accident sur le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, le pilote français est revenu sur ses 28 secondes qu'il a passées dans son cockpit en flammes.
J'ai l'impression que c'était plus long 28 secondes, mais c'était pas long. Puisque j'étais actif, j'ai essayé différentes choses, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai pensé à tellement de choses, mais je pense que c'est des millisecondes à ce moment-là. Le cerveau, il est en mode survie, rester vivant pour les miens, pour mes enfants, parce qu'ils ne peuvent pas perdre leur papa maintenant, là, comme ça, à Bahreïn. Bon, la dernière tentative, au moment où je pensais que j'allais mourir, c'est mes 3 enfants, et me dire que ce n'est pas possible, il faut que je trouve la solution pour eux. Avec le protocole Covid, je ne peux pas rentrer à la maison si je veux essayer de faire Abu Dhabi, et c'est très égoïste. Mais c'est ce que j'ai dit à Marion, j'ai dit, je comprends que vous n'acceptiez pas, mais je me dois d'essayer d'aller à Abu Dhabi, je me dois de remonter dans la voiture, j'en ai besoin. Il y a un avant et un après. Certaines personnes m'ont envoyé un message en me disant, c'est ta deuxième date de naissance, et je pense qu'ils n'ont pas tort. La vie va être très différente, et l'avenir et tout, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chanson.
Romain Grosjean avec Frédéric Veil hier soir sur RTL.
Un témoignage assez incroyable.
Une deuxième vie,
effectivement.
Une deuxième naissance.
Oui, oui.